Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là ce soir. Ça nous fait super plaisir en plus parce que c'est hyper important de maintenir des lieux de débat, surtout en ce moment à Toulouse. Ce soir, dans le cadre des 25 ans de la maison d'édition La Fabrique, on reçoit Christine Ross. Bonsoir. Vous êtes chercheuse en littérature, entre autres choses. Vous êtes spécialiste de la Commune de Paris. Vous avez écrit beaucoup de livres sur la question et aussi sur mai 68 en France. Vous venez présenter ce soir La Forme Commune, la lutte comme manière d'habiter. Vous allez faire une présentation du livre, ça sera suivi de quelques questions. À rappeler que comme toujours les rencontres sont non seulement amplifiées mais enregistrées et donc diffusées sur Canal Sud. Si vous ne voulez pas passer à la radio, il suffit de nous le dire ou de passer, de parler hors micro. Merci beaucoup et merci à vous d'être venus, vraiment merci beaucoup.
Et merci à Terra Nova de m'avoir invité. C'est ma deuxième fois à Toulouse et ma deuxième fois à Terra Nova. Plus proche? D'accord. Alors, je suis ici pour parler un peu de d'où je viens, pourquoi j'ai écrit ce livre. Et depuis quelque temps, ce qui m'intéresse, c'est la question du passé, de la question de quand est-ce que des moments du passé, des moments très spécifiques, quand est-ce qu'elles deviennent figurables, c'est-à-dire quand est-ce qu'elles redeviennent pertinentes pour nous dans notre présent, quand est-ce qu'elles deviennent visibles. C'est pas une question, c'est pas automatique. On sait, tout le monde sait que les commémorations tombe souvent à plat. On peut pas faire ça d'une façon automatique. Alors, quand est-ce que ces moments de notre passé collectif s'alignent à nos préoccupations du présent et redeviennent visibles? C'est un peu abstrait, mais c'est la question théorique qui a guidé mon travail depuis quelque temps. Et surtout sur les grands événements de la gauche dans l'histoire de la gauche comme mai 68 et la Commune de Paris. Et en fait, c'était mon travail sur la Commune de Paris qui était l'occasion d'une invitation en 2015 d'aller à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour parler et discuter avec eux des continuités et des décontinuités entre l'expérience des communards urbains du 19e et ce qui s'est passé à ce moment à Notre-Dame-des-Landes. Et c'était un moment très créateur à la ZAD, à ce moment, parce que ils étaient vraiment en train de chercher des modèles pour comment habiter la lutte, comment continuer la lutte. Et il y avait des gens qui sont allés à Chiapas. Il y avait des gens qui ont fait une espèce de voyage dans l'histoire et qui ont devenu très intéressés par la Commune de Paris. Et je suis allée et c'était un peu surprenant parce que au lieu de faire le truc, le protocole universitaire ordinaire, je me suis trouvée en train de mener un troupeau de vaches et de... Comment est-ce qu'un petit mouvement inédit, nouveau, comme Notre-Dame-des-Landes, transforme ce qu'on peut voir des temps pas si lointains comme les années 60 et années 70? Comment est-ce qu'il réconfigure les grands conflits de l'époque ou ce qu'on pense de ces conflits? Les luttes écologiques du présent qui cherchent à défendre les terres rendent perceptibles des liens qui existent entre des situations passées à travers le monde, du Brésil au Japon, du Canada à la France et celles d'aujourd'hui. Les préoccupations écologiques d'aujourd'hui réveillent de nouveaux échos qui, à leur tour, suscitent une compréhension révisée de ce qui compte pour nous du passé, de ce qui compte pour nous dans l'histoire récente. À mon avis, le passé n'éclaire pas le présent. C'est le présent qui conteste notre perception du passé et qui rappelle à la mémoire certains épisodes précurseurs et qui éclipse d'autres qui paraissent soudain moins pertinents, moins vivants pour nous aujourd'hui. C'est Notre-Dame-des-Landes qui rend de nouveau perceptible le Larzac. Et du coup, un paysan autodidacte comme Bernard Lambert éclipse Daniel Cohn-Bendit comme image ou figuration des aspirations de 68. Et du coup, la commune de Nantes, en 68, qui est le premier mise en scène dans mon enquête, éclipse ce qui s'est passé dans le quartier latin. Ainsi, Notre-Dame-des-Landes nous aide à ressusciter mai 68 à Nantes et où une commune organise pendant plusieurs semaines le ravitaillement de la population, la garde des enfants, le ramassage des ordures. Et la condition de cette organisation de grande ampleur était une alliance inédite entre ouvriers, étudiants et paysans. Alliance très structurée politiquement. Occultée par les épopées du quartier latin et même par la mémoire des grandes grèves ouvrières, cet épisode ressurgit des mémoires, comme l'occupation du Larzac, au moment où Notre-Dame-des-Landes devient ZAD, et surtout au moment de la victoire de la ZAD, la fin du projet de l'aéroport. Car ces deux luttes, ainsi que le Larzac, mettent en évidence ce que la regrettée Maria Miss, qui vient de mourir il y a quelques mois, appelle le principe de subsistance, principe qui fait de la vie et de la préservation du vivant son principe central. Principe qui permet, et je cite, la création progressive d'un tissu de solidarité vécue. Et ça, c'est une jolie définition de la forme commune. Alors, c'est la victoire de la ZAD qui rend le Larzac visible à nouveau. Et soudain, c'est toute l'histoire de ce dernier demi-siècle qui se trouve réconfigurée grâce à la forme qu'ont pris les combats écologiques contemporains comme Standing Rock dans les Dakotas, la forêt luserate en Allemagne, Stop Cop City à Atlanta. Je ne sais pas si vous connaissez ça. On peut discuter de ça. C'est ce qui se passe maintenant. C'est la lutte la plus visible aux États-Unis maintenant. Le Larzac et d'autres batailles comme la bataille contre l'aéroport de Narita au Japon, peuvent désormais apparaître comme des combats les plus caractéristiques, les plus décisifs des années 60. Et ça c'est le grand argument historique que j'essaie de faire dans le livre. Et j'aurais dû mentionner, bien sûr, avec Standing Rock, etc., Castres. Dès qu'on peut revoir le Larzac et son importance, d'autres luttes de l'époque deviennent perceptibles, comme la lutte contre l'aéroport de Narita, qui a duré 10 ans, des paysans qui allaient jusqu'au point de s'enterrer dans les tunnels, dans la terre, pour empêcher les machines d'entrer dans la zone. Et ils avaient un nom très, très, très poétique et très frappant pour ce projet d'aéroport. Les paysans japonais ont l'appelé une passerelle vers le vide, une passerelle vers nulle part. En même temps, exactement en même temps, le Canada s'est décidé de construire le plus grand aéroport du monde, à côté de Montréal. Et c'était causé par les Jeux olympiques qui venaient. Le gouvernement s'emparait de 40 000 hectares de terres agricoles. Ils ont construit l'aéroport, mais ça a été un échec total. Personne ne l'utilisait. Ils préféraient l'autre aéroport. Alors, on avait cette espèce de white elephant, on dit ça en français, qui servait à rien, servait à un certain moment juste pour le commerce, et il n'existe plus maintenant parce que il a été démoli à grands frais en 2014, je crois. Mais avant ça, c'était utilisé juste uniquement pour les décors du film. Tout ça pour suggérer que malgré le dédain historique de la gauche envers le monde de la campagne, il est bien possible que la bataille sociale et économique la plus conséquente soit la guerre menée contre la paysannerie dans le monde entier. Alors, ces batailles qui sont ancrées dans un territoire posent des choix radicaux puisqu'elles engagent la vie matérielle et quotidienne de ses participants. Mais elles posent aussi les bases d'une communauté politique vécue qui constitue en elle-même une nouvelle valeur. C'est cette communauté politique et polémique. C'est pas une question de consensus, c'est toujours polémique, que j'appelle la forme commune. Forme à la fois spécifique, reconnaissable et infiniment transmutable. Forme qui se modifie incessamment selon les situations. Forme qui relève de l'art et de l'organisation de la vie quotidienne. Et je ne voulais pas trop définir cette forme. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas politologue. Je ne commence pas avec les concepts. Alors, c'est pour cette raison que c'est à partir de l'histoire et en tant qu'historienne que j'essayais de dégager la forme de ce mode de vie. C'est une forme qui est toujours située, qui est toujours en acte. c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être abstraite. Elle se construit. Il s'agit de construire des lieux, des espaces au sens propre du terme. Et c'est pour ça que j'ai dû resituer ces luttes passées et recréer leurs interventions pragmatiques pour les permettre de faire ce lien avec les combats du présent. Et le livre est en grande partie un exercice de relocalisation ou de mise en scène. Et puis, quand même, je voulais parler dans le livre de quelques traits, quelques pratiques qu'on peut isoler qui font partie de l'intelligence politique de la forme. Et la première d'entre elles est la défense. La défense et non pas la résistance. Alors, quelle est la différence? Pour moi, la défense est davantage génératrice de la solidarité que la résistance. Et c'est parce que lorsqu'on défend, on commence avec quelque chose qu'on aime. On commence avec quelque chose qu'on chérit, qui vaut la peine de défendre. Résistance, c'est plutôt l'État qui a l'agenda. C'est la temporalité de l'État qui détermine la résistance. C'est l'État qui fixe l'ordre du jour. Mais avec la défense, c'est nous. Et se battre pour un endroit, se battre pour un mode de vie est plus mobilisateur que se battre pour une idée. On commence peut-être par défendre une terre ou un environnement non pollué, mais défendre ce territoire revient à défendre le projet de vie collective qui prend forme pendant la défense. Nous faisons notre communauté en le défendant. Deuxième pratique, l'appropriation. C'était un thème cher à beaucoup de penseurs des années 70 comme Guattari, Mies, André Gorz et surtout Lefebvre. Et c'est parce que tous ces penseurs sont venus à la question de l'écologie à travers la vie quotidienne, à travers cette problématique. Et c'est Lefebvre qui a pensé la création de ce qu'il appelait des espaces appropriés, des espaces où les désirs et les relations non réductibles aux impératifs économiques auraient la liberté de s'épanouir. Et il pensait aussi, et c'est une idée que je trouve très écologique, mais pas dans la façon comme on le comprend maintenant dans ce journal. Il dit que les groupes et les personnes, les individus, ne peuvent simplement pas se constituer comme acteurs politiques, comme sujets politiques dans leur vie, s'ils ne produisent pas un espace à la fois politique et social qu'ils s'approprient et qu'ils créent ensemble, qu'ils créent eux-mêmes. Pour moi, c'est une définition pratique de la forme commune, cette idée. Parce qu'il s'agit de la réappropriation collective de l'espace et du temps Non pas dans le sens d'une possession, mais dans le sens d'une création, une œuvre. Troisième et dernière, il y en a quatre, mais je ne vais pas parler de le quatrième. Troisième, c'est la composition. Les gens qui transforment ces espaces et créent ces espaces sont souvent les gens d'une diversité énorme. Et vous, j'imagine qu'il y en a des gens ici qui ont assisté aux AG interminables à la ZAD. Et si oui, vous avez vu les gens là-bas, qui les anciens éleveurs, les paysans plutôt modernes, les jeunes gens, les black blocs, il y avait des naturalistes qui ne croyaient même pas dans l'agriculture. Il y avait une énorme différence de gens. Et c'est cette création d'une communauté polémique et politique qui est formée par l'action collective de créer des espaces d'autogestion. Et ça marche si l'égalité est la présupposition animante qui fait que l'égalité est assumée à travers l'action entre les segments multiples du mouvement qui restent multiples tout en devenant communauté. Pour conclure le livre et ses remarques, je termine le livre avec une discussion de soulèvement de la terre. C'était écrit avant la tentative de dissolution et avant Sainte-Soline. C'était juste au commencement du mouvement, dans sa très jeune jeunesse. Mais ce qui m'a frappé à l'époque, c'est encore une fois la forme du soulèvement qui était un mouvement que n'importe qui pourrait rejoindre. Ce n'était pas une classe sociale, ce n'était pas générationnel, ce n'était pas un parti politique. Et ces activités étaient hautement publiques, hautement visibles. Et ça, c'était leur ce qui les rendait intéressants. Et pour moi, le mode commun pour notre temps. Et je vais dire que ce qui m'a intéressé, c'est que la forme, pour moi, a évoqué une variation de la forme ancienne de la commune, retravaillée et rendue disponible pour nous aujourd'hui et pour nos impératifs. Mais là où la commune ancienne était liée à la défense d'une région particulière, le mode contemporain se manifeste dans de nombreuses régions qui se trouvent ainsi fédérées par les actions de SLT. Alors, c'est ça qui m'intéresse, c'est que SLT a résolu le problème de la fédération qui a éludé les communards du 19e. SLT a créé un horizon commun des luttes situées. Et c'est pour ça que je pense que c'est le mode commun de notre temps. Merci.
Euh, Alors, merci beaucoup. Alors, j'avais quelques questions. Peut-être qu'il y a déjà des questions dans la salle.
Oui, merci pour votre présentation. Lorsque l'objectif recherché est atteint, que devient cette action commune ?
Pardon ?
Lorsque l'objectif qui est recherché, l'arrêt d'une intervention, l'arrêt d'une appropriation, lorsque l'objectif est atteint, que deviennent ces groupements ? Que deviennent cette action commune ?
Ça se transforme en quelque chose d'autre, évidemment. C'est ce qu'on a vu avec la fin de la ZAD et la naissance, disons, de soulèvement comme... les gens de la ZAD qui se sont composés avec XR et Confédération Paysanne et tout ça. Et ce mouvement vers un horizon plus vaste qui est toujours de lutte située. Et ça avait l'effet, je crois, de défétichiser un peu la ZAD originelle. Et ça, c'est un effet de transformation. Rien n'est éternel. C'est que il y a des communautés qui continuent. Longomai, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas né d'une lutte exactement, mais qui a traversé des décades. Je pense aussi à un groupement comme l'Ambiance Bois dans la région limousine, qui maintenant a duré des décades. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de définition vraiment. Il y avait la ZAD, la crème ZAD qui n'a duré que une après-midi, non?
Dans le livre, vous revenez un petit peu sur votre bouquin précédent, sur la Commune de Paris. Alors, l'historiographie un peu consacrée, elle fait débuter la Commune le 18 mars 71, quand Thiers essaye de saisir les canons de Montmartre. Vous parlez aussi de la Commune de Nantes, vous l'avez rapidement évoqué là. Et donc, c'est deux semaines d'autogestion municipale qui font suite à l'effondrement en fait des services publics. Ma question, c'était, est-ce que c'est seulement dans les moments de crise institutionnelle que la forme commune, elle s'épanouit ? Et est-ce qu'elle peut, selon vous, s'épanouir en dehors de la conflictualité ?
Mais je viens de répondre à cette question avec mes autres exemples, comme Longomai. Je crois que c'est beaucoup plus facile dans les situations de crise, évidemment. La Commune de Paris au 19e, tout le gouvernement central a foutu le camp. Même chose un peu avec la Commune de Nantes, parce qu'on était en plein grève générale, tout est arrêté dans le pays. Ce sont des moments où l'État est vraiment contourné, l'État n'est plus là. Mais il y a d'autres manifestations de la forme commune quand l'État se repose, quand l'État est endormi. Ça aussi est arrivé avec Notre-Dame-des-Landes, qui a eu des moments dans son histoire de violence et de combat direct. Et qui ont eu aussi des années où l'État a oublié. Et les périodes où l'État oublie sont des périodes très riches. C'est là où on peut vraiment faire quelque chose.
Est-ce que la forme commune, elle se déploie contre, sans ou à côté de l'État ? peu anarchisant comme question. Mais...
Oui, mais c'est... Je crois que j'ai utilisé la phrase « Quand l'État recule, la forme commune s'épanouit. Quand l'État recule. Et ça revient un peu à l'ancienne idée de pouvoir double qui date de la Révolution russe. Le pouvoir double, c'est les collectivités qui essaient de prendre en main les nécessités de la vie quotidienne et de faire surtout les questions de la subsistance pour rendre l'État oubliable, pour se remplacer un peu, pour se remplacer de l'État, en faisant à peu près ce que faisait l'État dans la question de service, dans la question de nourrir, la question de tout ça. Et comme ça, on est de côté.
Mais du coup, est-ce que vous considérez que toutes les alternatives, enfin toutes les formes d'alternatives, c'est des formes communes?
Donne-moi un exemple.
Bah, je sais pas, des écoles alternatives, par exemple, ou... Enfin, je sais pas, tout ce qui ne se réclame pas de l'État, qui se situe un peu à côté, mais qui est pas forcément pour autant révolutionnaire ou qui est pas en train de lutter ardemment comme peut faire la ZAD. Ou je sais pas, Longomaille par exemple. Maintenant, c'est plutôt du côté de l'alternative que du côté de la lutte, quoi.
Ouais.
Et du coup, est-ce que on considère que c'est quand même une forme commune? Enfin, j'arrive pas totalement à distinguer. Enfin, avec la question que tu posais, quoi.
Ce qui se passe dans la lutte et ce qui se passe dans les modes de vie alternatifs, c'est ça? Quelle est la différence?
Oui, et puis est-ce que du coup, enfin, je sais pas, c'est que ce qu'il y a d'intéressant avec la ZAD, c'est le moment où elle est en contre de quelque chose, mais du coup, est-ce que, enfin, je sais pas, ma question est pas très claire, mais
non, je vois ce que tu veux dire, oui. Et j'ai essayé quand même de dire quelques traits et quelques définitions. C'est que ça doit être lié à un territoire, à une terre. Alors, une école alternative, non, c'est pas ça. Ça pourrait faire partie de quelque chose, mais juste ça, non. Il y a une définition que Kropotkin a fait qui est très, très bien. Il a dit que la commune, pour lui, c'était à la fois le contexte de la révolution et le moyen de le faire. Le contexte et le moyen. C'est-à-dire, c'est la façon de le faire et la situation.
En fait, pour repréciser mes questions, désolée, c'est que j'ai l'impression que l'alternative, elle est aussi récupérée par une forme de normalisation. Enfin, et du coup, elle reste. On pourrait dire qu'il y a des choses qui restent des alternatives parce qu'ils ne sont pas forcément devenus institutionnalisés. Mm-hmm. Mais par ailleurs, ils perdent leur pouvoir subversif. Et du coup, je me demande si à ce moment-là, ce qui est semi-institutionnalisé, ça reste des formes communes.
Non.
Ou pas. Voilà. Et donc, du coup, ce que vous dites, c'est quand même que c'est plutôt les formes révolutionnaires, enfin en tout cas les formes qui se constituent dans la lutte, qui sont des formes communes, quoi.
Ouais.
Ok.
Longomaille est dans le livre, mais dans une phrase. Je ne m'occupe pas vraiment de Longomaille et les choses comme ça. Non, c'est la création, surtout de la lutte, qui crée.
Moi, je voulais savoir comment vous mettez effectivement la perspective historique dans cette dans cette réflexion parce que il me semble, moi, que aujourd'hui, cette, ce que je découvre, ce que vous êtes en train d'écrire, ce que vous avez écrit, ce que vous mettez derrière forme commune aujourd'hui est vraiment en lien avec la défense de la vie. Et c'est quand même quelque chose qui est nouveau, je crois, par rapport à tout ce qui s'est passé dans les siècles passés où, bon, la dimension sociale était très présente, la dimension de la défense d'un territoire aussi. Mais là, on passe à une échelle autre. Et finalement, il me semble que toutes ces formes-là, elles se rejoignent. Alors, je veux juste faire un petit aparté par rapport au Chiapas, puisque vous en avez parlé tout à l'heure. Mmh. Effectivement, les apatistes, eux, ils ont souhaité s'organiser autrement autour d'un territoire. Mais dans leur discours, ils disent bien qu'ils défendent la vie. Et aujourd'hui, ils sont vraiment en danger. Hein. D'ailleurs, je profite pour le signaler. Et c'est très grave leur situation parce que la pression de l'État devient terrible sur eux. Mais après, ils ont eu une influence très grande sur plein de mouvements partout. Mais au Mexique aussi, il y a justement des tas de communautés indigènes qui aujourd'hui ont mis dans leur lutte une autre dimension également. Il y a le Congrès national indigène qui existe depuis le soulèvement zapatiste, enfin depuis 2 ans après le soulèvement zapatiste, mais enfin, donc ça fait longtemps déjà. Et voilà, donc cette dimension historique-là et qui est vraiment très elle me semble importante à réfléchir. Et puis voilà, aujourd'hui, la nécessité de réfléchir à ces formes communes me semble être une urgence.
Mais oui, certainement. Et je ne dis pas que la commune de Nantes est une réincarnation de la commune de Paris ou un truc comme ça, parce que comme vous dites, la question de défense de la vie, c'est au centre de la forme maintenant. Et ce n'était pas nécessairement au centre à l'époque ou dans les luttes passées. Mais c'est parce que la forme commune, c'est toujours une intervention très pragmatique dans les questions du présent. Même si on a ces échos avec les formes du passé, c'est une intervention pragmatique dans les questions du présent, avec les ressources du présent, et une confrontation directe à des problèmes du présent aussi. Et c'est en retravaillant cette forme qu'on arrive à poser ces questions et de vivre différemment dans le présent. Le lien, c'est avec un désir perdu de la forme, surtout au 19e. La commune de Paris, le grand problème, c'était c'était son isolation. C'est que il n'y avait aucun moyen de communiquer avec les autres communes. Il y avait la commune de Lyon, Saint-Étienne, il y avait d'autres, et il n'y avait aucun moyen de communiquer avec les gens de la campagne. Alors c'était une isolation totale. Et après, dans les discussions parmi les survivants et leurs amis comme Kropotkin et Marx et William Morris, c'est tout le sujet de l'autre livre, ils étaient très obsédés par cette question. Comment fédérer avec d'autres luttes? Comment faire ça? Et c'est ça que SLT a réussi. Cette formation d'un horizon, c'est-à-dire une orientation en commun de lutte située. Et, et vous avez raison. Maintenant, la question de la duration et le vivre ensemble et tout ça, ça devient moins visible. Mais il y a une compensation qui est leur réussite avec la fédération.
Vous avez commencé votre intervention en parlant des vaches de la ZAD que vous avez rencontrées. En fait, ce qu'on comprend, c'est que à la ZAD, donc en dehors du système salarié, il y a un rapport à l'espace-temps, enfin à l'espace et au temps, et donc aux deux, qui est différent. Vous mentionnez beaucoup Henri Lefebvre. Il dit « L'espace devient l'enjeu principal des luttes et des actions visant un objectif ». Alors du coup, comment est-ce que lui définit l'espace? C'est quoi son rapport au temps? Et en fait, je voulais vous interroger sur peut-être l'actualité de cette notion. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne parlera pas plus de milieu ou d'environnement que d'espace?
L'espace, Lefebvrien, c'est le sujet de son meilleur livre, qui est « La production de l'espace ». C'est quelqu'un qui a écrit trop, beaucoup trop. Mais il a eu quand même des perceptions pour le moment, dans les années 70, que personne n'avait. C'est lui qui a dit même à ce moment que les batailles sur la Terre, les batailles écologiques nécessairement réunissent des gens très, très différents. Et ça veut dire que la solidarité qui existe ne peut pas être une solidarité idéologique. C'est pas l'idéologie qui unit les gens qui se battent pour un territoire. Il y a une autre sorte de solidarité. Et il a discuté tout ça. Alors ça, c'était très... ce n'était pas... Les gens ne... Il était original pour ce moment. Mais je crois que son idée sur l'espace, c'est plutôt vers milieu que environnement, parce qu'il est vraiment... Pour lui, l'espace, c'est une production. Lui est anti-productiviste en tant que marxiste, mais il pense en termes de la production de l'espace. Il dit que le capitalisme survit parce qu'il produit un espace. L'espace des dominés, l'espace des aéroports, l'espace du monde aérien, l'espace du commerce, l'espace de... Tout ça, c'est une production, et pour contrer ça, il faut une autre sorte de production de l'espace, et c'est ça qu'il appelle appropriation. Exactement ce qui se passe maintenant, ce qui s'est passé à Castres, c'est exactement cette idée de réapproprier l'espace qui a été investi par le capitalisme et de le libérer. Et il est très, très éloquent sur ce sujet.
Mais, du coup, avec cette notion d'espace, je n'arrive pas à comprendre si c'est uniquement les luttes écologiques qui produisent de la forme commune, ou est-ce que, par exemple, les luttes qui n'ont pas du tout de territoire, comme, des luttes féministes ou des luttes décoloniales, elles ne produisent pas de forme commune.
Pendant la Commune de Paris, lorsque les bourgeois qui avaient peur ont fui la ville, ils sont allés à Versailles, ils ont laissé leur appartement vide, ils ont laissé leurs ateliers, et les communards ont dit « Bon, c'est à nous maintenant, on va approprier ces appartements, non pas dans le sens d'une possession, il n'y avait pas d'échange mais c'était l'idée que ces espaces étaient trop valables pour les gens en général de rester vides. Et ça veut dire que la possession n'était pas déterminée par la position bourgeoise, mais par la question de l'espace de la ville, l'espace des gens, l'espace de la commune. Et ça, c'est un exemple d'une appropriation qui n'est pas exactement de la terre, ou c'est pas une création. C'est une récréation de l'espace urbain et l'espace de la société urbaine. Mais oui. Mais pour la question féministe, la question décoloniale, il faut quelque chose de beaucoup plus matériel, des exemples matériels, parce que
c'était juste une remarque. Tout d'un coup, je me demandais si on pouvait pas parler d'espace intérieur dans le cadre de lutte comme ça.
L'espace psychologique, tu?
Oui, c'est-à-dire qu'on reconquiert des choses en luttant pour, justement, au niveau, dans les luttes féministes ou dans les luttes décoloniales, on reconquiert des choses intérieures qui peuvent aussi nous conduire à quelque chose d'autre. Les femmes, effectivement, sont au centre des luttes et en reconquérant un pouvoir en elles-mêmes, elles sont complètement en lien avec l'extérieur et avec la nature aussi. Donc, bon,
oui.
Voilà, c'était
oui.
Une remarque.
Peut-être.
Non, sur le décolonial, je pensais à quelque chose qui s'est passé pour Castres, justement. C'est-à-dire qu'il y a aussi un imaginaire, je ne sais pas, et des pratiques colonialistes dans nos propres sociétés. Quand une dirigeante politique dit que ce territoire suinte la misère et que pour ça, il faut une autoroute, c'est... Oui.
Il a dit ça?
Oui, Caron Delga a dit ça. Le Tarn Sud suinte la misère. Et donc, il faut une autoroute pour désenclaver ces pauvres gens, etc. Ça, c'est typiquement un discours colonial. C'est vraiment le discours du maître, et c'est un discours colonialiste. Oui, ben, c'était les mêmes discours. Donc, il y a des colonies à l'intérieur du centre, quoi, de...
C'est comme
des colonisateurs.
C'est comme la remarque de Michel Debray sur le Larzac. Exactement la même chose. Il a dit, oui, on a choisi cette région pour notre camp d'entraînement de l'armée parce que il n'y a personne qui habite là, sauf quelques paysans qui habitent moyenâgeusement et qui élèvent quelques brebis. Non, mais c'est vraiment, c'est exactement cette perspective coloniale. Mais je voulais citer le ministre des Transports qui a eu une autre bonne citation sur Castres. Il a dit, ça m'a beaucoup frappé, il a dit, la ZAD, ce n'est pas un élément festif et sympathique. C'est une violation des règles élémentaires de la propriété et de l'espace public. Oui, c'est juste. Mais c'était le commencement. La ZAD n'est pas un élément festif et sympathique. Il y a un énorme ressentiment. Il y a une espèce de revanchisme c'est comme le plaisir, et ça rend les gens comme Clément Beaune absolument... Oui, c'est le plaisir qui le rend hors de lui. Oui, mais c'est pas... Il faut commencer quelque part. Non, mais vraiment, il faut commencer quelque part. Ces inquiétudes que vous vous avez, c'est une façon de ne rien faire à un certain moment, parce que il y a une vraie différence entre essayer de empêcher le droit à l'avortement et mon sujet à moi. C'est pas la même chose. Même si, oui, on peut se défendre de la vie comme ça, comme une. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours examiner les situations matérielles. On peut pas faire les grands discours comme ça. Il faut aller à l'exemple concret. Il faut analyser. Il faut resituer. Parce que si on devient trop abstrait, on perd tout. Non, pas nécessairement, parce que cette phrase de Kropotkin est vraiment résonante. C'est le contexte est le moyen de l'affaire, et il parle de la révolution. Pour lui, la forme commune est la révolution, mais c'est les deux choses à la fois, le contexte, la situation physique, et le moyen de le faire. Alors, c'est pas quelque chose qui arrive, dans un soir. C'est vraiment clair que le capitalisme ne va pas s'effondrer du coup partout dans le monde, pour tout le monde, en même temps. Vous êtes d'accord? Oui. Mais ça, c'était le rêve. C'était le vieux rêve, ça. Et c'est un rêve qui existe déjà, toujours quelque part dans les esprits. Et ça devient une espèce d'alibi pour ne rien faire.
Alors, j'essaie de reformuler une dernière fois.
C'est se battre contre le fascisme ou un truc comme ça.
Non, mais c'est juste qu'il peut y avoir des luttes de droite pour conserver des territoires.
Bien sûr, mais c'est... Bien sûr, mais ça existe vraiment aux États-Unis. Les États-Unis ont la spécialité de ce genre de lutte de droite pour le territoire. Mais si on examine ces luttes, ils n'ont rien à voir avec les luttes dont on parle maintenant. Ils n'ont rien à voir juste parce qu'ils sont sur un territoire, une défense de territoire. Ce sont des gens qui sont vachement hiérarchisés, qui sont dans un patriarcal, un esprit patriarcal de base, et ça n'a rien à voir avec ces luttes dont je parle.
Si je peux remettre mon déguisement de libraire là, en vrai, ce dont vous parlez là, ça me fait penser. Un peu sur les bouquins là qui parlent d'écofascisme, où en fait du coup il y a vraiment une différence entre territoire et espace, et donc par exemple les écofascistes parlent vraiment d'enracinement, et donc c'est un rapport à la nature qui est clos, en fait c'est l'enclosure, et donc on parle encore d'espace considéré dans le et de nature aussi au prisme de la propriété privée, quoi, et je pense que là on parle plus d'espace transversale, quoi. Oui. Et par rapport à une des premières questions, ça me fait penser aussi aux notions de écoféministe en Amérique latine, de corps-territoire, enfin de lutte contre l'extractivisme et contre le patriarcat qui fait un petit peu en même temps, quoi. Et c'est pour ça que je voulais t'en parler de cette question d'espace, quoi, parce qu'elle permet de... Enfin, je sais pas, pardon, j'avais pas de fin, en fait. Est-ce qu'on lève le camp? Est-ce qu'on continue à parler peut-être sans sans les chaises et sans les micros? Christine Ross, vraiment, merci beaucoup.
Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venu ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.